L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Figure du monde médical mondialement connu, créateur et chef du service de génétique au CHU de Rouen, le professeur Thierry Fribourg est décédé le 13 mars 2021, il avait 60 ans. C'était un homme solaire, un chercheur reconnu, un manager formidable, et il était votre frère, Olivier Fribourg, bonjour.
Bonjour Christophe Maury.
Alors, deux frères, Thierry et Olivier, le médecin et l'écrivain, comme Robert Proust, immense urologue, fut l'aîné de Marcel, comme le gastro-entérologue Benoît et l'aîné de son frère écrivain Christophe. On pense aussi à Achille Flaubert, chirurgien, et à Gustave, qu'on ne présente plus. On a lu tout ça. Mais vous donnez le sens, je vous cite, « Un écrivain et un médecin sont des lecteurs des corps et des âmes. Pourquoi mon frère a-t-il choisi la médecine et moi la littérature ?» Y a-t-il, Olivier Fribourg, un vrai parallèle entre médecine et littérature, ou est-ce une vue de l'esprit en vue de l'affection entre vous et Thierry ?
Ah non, je pense que ce sont deux disciplines, si on doit parler de disciplines, ou plutôt deux vocations, parce que je pense que la médecine, comme la littérature, sont des vocations qui cousinent énormément. Pourquoi ? Parce que d'abord, la médecine, c'est un art de l'observation, c'est un regard. C'est une chose qu'on a un peu oubliée au temps de la médecine en troisième dimension, à l'heure de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, on regarde un corps, c'est ce qu'on appelle un tableau clinique.
Absolument.
Si Flaubert, que vous citiez, est devenu un écrivain, c'est peut-être aussi, ça a participé du fait qu'il voyait les autopsies, les biopsies auxquelles se livrait son père avec les Maccabées à l'Hôtel Dieu de Rouen. Donc, on apprend à regarder.
Mais c'est pas pour rien que M. Bovary est médecin.
Voilà. L'observation, le regard, c'est aussi le travail de l'écrivain. C'est regarder ce que les autres ne voient pas. Et puis, il y a une chose aussi très importante, c'est que la médecine est une humanité. La médecine est une humanité. Rabelais était médecin. On peut citer aussi des gens comme Reversy, par exemple, qui ont été médecins et écrivains. Et il y avait, et il y a parfois encore, chez certains médecins de campagne encore, des bibliothèques avec des livres.
Oui.
Et la littérature faisait partie, je dirais, l'éducation littéraire faisait partie de la formation d'un médecin.
Absolument. Et les médecins ont... On va pas dire tous les médecins, mais souvent, très souvent, sont de très grands lecteurs.
Sont de très grands lecteurs parce que ce sont souvent des hommes d'intelligence, à la fois scientifiques, littéraires, artistiques. Aussi, on peut apprendre beaucoup de choses sur les corps en regardant aussi la peinture. Voilà.
Bien sûr.
Et donc, si vous voulez, je crois que un mot, peut-être un peu valise, mais un mot comme résume bien cela, c'est en effet le mot humanisme et humanité. Donc, moi, je crois que d'abord, la vertu d'un médecin, avant même sa connaissance scientifique, le fait de pouvoir poser un diagnostic, c'est important. Mais à l'heure, justement, d'une déshumanisation progressiste de la société, il me semble que l'humanisme, et donc cette qualité morale, est la première qualité que nous attendons d'un médecin, et en tout cas, c'est celle qu'incarnait formidablement bien mon frère.
Alors, votre livre est d'abord un cri. Un cri de souffrance, un cri aussi contre la médiocrité qui ronge l'hôpital, un besoin de vengeance, le mot revient plusieurs fois dans le texte. Votre frère est mort de l'incompétence d'une infirmière qui a mal retiré un cathéter. Et vous insistez, le sujet ici, ce n'est pas le bon et les méchants, c'est le juste et les incompétents, dans un second temps, le juste et les menteurs. C'est-à-dire qu'on est entouré d'incompétents et de menteurs. En effet, il y a une omerta au CHU de Rouen par rapport au décès de votre frère, et puis une incompétence, enfin quand on dit que l'hôpital va mal, vous le démontrez dans votre livre « Frère unique » Olivier Fribourg, publié au Mercure de France, l'hôpital va très très mal.
Oui, alors je dirais que toute mort révèle un moment, une époque, c'est une signature, la façon dont on meurt parfois de façon, ce que j'appellerais illégitime, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas de l'ordre des choses, dès lors que l'on ne meurt pas de vieillesse dans son lit ou à l'hôpital. Alors je voudrais dire deux choses d'abord, et qui sont très importantes, qu'il faut distinguer. Moi je suis un admirateur, grâce à mon frère, de l'hôpital public, et je reste un admirateur forcené de l'hôpital public, où il y a les médecins, les soignants, les absolument les plus exceptionnels qui soient.
Et les chercheurs.
Et les chercheurs, les plus dévoués, c'est des pôles de compétences, et nous savons, tous les Français le savent, parce qu'ils ont faire à un moment ou à un autre à la médecine, que nous avons une médecine française d'exception. Mais en effet, qui aujourd'hui est extrêmement chahutée pour des raisons multiples, manque de moyens, fait que l'administration ait pris le...
Ben oui, elle est bouffée par l'administration.
Le dessus sur corps médical. Voilà, je ne comprends pas que ce trésor... qu'est la médecine publique, l'assistance publique à Paris, les CHU, les hôpitaux publics en province, ne sont pas un joyau que nous n'avons pas plus ménagé, plus entretenu et plus développé quand on savait quand même, il ne fallait pas être sorti de Polytechnique ni de l'ENA, quand on connaissait la progression du vieillissement de la population.
Mais hélas, ils sont sortis de l'ENA.
Alors, voilà. Donc, pour reprendre votre question, en effet... mon frère est mort d'une série de dysfonctionnements et d'incompétences et aussi d'entorses à l'éthique qui fait que, eh bien, il est mort d'un accident qui n'arrive normalement jamais, c'est-à-dire d'une simple bulle d'air qui est entrée dans sa jugulaire parce que une infirmière qui n'était pas encadrée, je tiens à le préciser, par des médecins au moment de cet acte, parce que l'infirmier ne fait ou l'infirmière ne font que porter ce que leur demande de faire un médecin, et l'absence de médecin a été absolument fatale pour mon frère, et en même temps le fameux mot de procédure qui était complètement fautive aussi dans le service où mon frère était hospitalisé. Et donc, si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que mon frère qui a donné toute sa vie à l'hôpital public, c'est-à-dire par vocation, c'est-à-dire que jamais mon frère n'aurait accepté de soigner pour de l'argent, il avait refusé des propositions dans des laboratoires étrangers, dans des firmes privées, parce que pour lui, la médecine, c'était d'abord servir le plus humble, celui dont il avait le plus besoin, et que la médecine n'avait pas à faire avec de l'argent. Même si, en tant que chercheur, en tant que généticien, il devait aller chercher des budgets, justement, pour, je dirais, tous ces séquenceurs, tout génétique, tout ce qui est nécessaire aujourd'hui à la recherche, parce qu'il n'y a plus les budgets. Mais c'était d'abord un homme qui a consacré sa vie au public, et je pense que les médecins, je pense qu'il y a une forme de aujourd'hui, je dis souvent que les hôpitaux sont un peu nos églises modernes, si vous voulez, nos églises contemporaines. C'est-à-dire que c'est là où nous sommes démunis, c'est là où nous sommes dans une position de faiblesse et que nous attendons qu'une main se tende pour nous soigner. Et la main, c'est extrêmement important en médecine. Il n'y a pas que l'ordinateur, il n'y a pas que le planning, il n'y a pas que tout cela, il n'y a pas que, je dirais, des gestes scientifiques.
Sortir des tableaux Excel et rentrer dans les chambres.
Voilà. Et donc, si vous voulez, la tragédie qu'a emporté mon frère est à la fois pour nous un chagrin privé, d'ordre familial, mais j'essaye de dépasser ce chagrin pour montrer que, en effet, la mort de mon frère est révélatrice aussi de ce dysfonctionnement, de ce malaise que nous connaissons aujourd'hui dans les hôpitaux, où parce qu'il y a un manque de personnel, parce qu'il y a une pression au quotidien sur les soignants, eh bien, les accidents peuvent se multiplier. Mais il n'empêche, que je tiens aussi à saluer les médecins exceptionnels qui existent. Et je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Je n'ai
Alors, on
peut
pas lire
réquisitoire
dans...
contre l'hôpital public. Non. C'est contre certains médecins sont mal comportés, précisément, dans cet épisode.
Alors, on peut lire dans la Normandie du 9 novembre 2023, la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins de Normandie vient de sanctionner d'un blâme le chef de service de neurologie du CHU de Rouen et de suspendre pour une durée de 4 mois, dont 2 avec sursis, le neurologue qui suivait le professeur Thierry Fribourg. Deux sanctions qui font suite à une erreur médicale ayant entraîné le décès de l'éminent généticien âgé de 60 ans le 13 mars 2021. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire que la justice est passée par là.
Oui, alors
enfin, elle ne vous rendra pas votre frère.
Non, c'est une victoire très symbolique. En effet, elle ne rend pas mon frère. Elle ne nous rend pas, notre famille, un fils, un mari, un frère, un père. Ce que je voulais dire, c'est que dans ce combat, qui a été mené beaucoup par ma belle-sœur, qui est elle-même médecin, qui a assisté au théâtre de la tragédie, et qui est elle-même médecin, elle a vu, si vous voulez, l'absence et, je dirais, la lâcheté médicale parfois à l'œuvre. Et ce qui est tout à fait étonnant dans ce dossier aussi, c'est que ce n'est pas que le chagrin d'une famille qui a voulu à la fois rétablir la vérité, mais que ceux qui ont jugé, ce sont des médecins. Le rapport d'expertise qui avait été fait auparavant, avant la décision de la chambre disciplinaire, était fait par des médecins, et ça a été aussi un réquisitoire. Et donc, ce qui veut bien dire que les médecins eux-mêmes ont vu que leurs confrères avaient commis des fautes et avaient commis des actes, des manquements graves à l'éthique. Et donc ça, c'est aussi très très important.
Alors, On a parlé de l'hôpital, de votre frère, mais le plus important, peut-être, c'est là où vous nous emmenez, c'est-à-dire que vous nous emmenez aux Antilles, à Rouen, à Douarnenez, à Varengeville. Nous allons revenir sur ces lieux, mais d'abord, Olivier Frébourg, votre livre est un cri, un désespoir et d'énervement. Je veux chanter mon frère et crier ma colère. Mais vous avez aussi, vous nous emmenez aux Antilles, vous nous emmenez dans l'enfance. Et là, c'est extraordinaire, parce que notre séjour aux Antilles, ce serait celle d'une explosion de joie, écrivez-vous. Les Antilles étaient un carnaval, et à vous lire, on entend la compagnie créole au bal masqué, ohé, ohé. Je ne veux pas écrire un livre de souvenirs. Ce qui m'intéresse, c'est la construction du mythe de l'enfance. Et là, on a des pages formidablement ensoleillées, on a envie de plonger avec vous, et on sort de là tout bronzé.
Oui, alors... En effet, dans ce livre, il y a deux parts. Il y a une part d'ombre, une part de colère, comme vous l'avez dit, voire même de vengeance, hein, que je revendique. On peut avoir ce sentiment qui ne règle rien. Hein, la vengeance, en effet, est une impasse. Mais, si vous voulez, ce combat, je l'ai mené parce que non seulement mon frère est mort d'une succession d'erreurs médicales, mais en plus, ce qui était absolument sidérant dans cette histoire, c'est que l'hôpital a essayé de construire un scénario qui n'était pas le scénario de la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont voulu dévier, en quelque sorte, construire un scénario qui était à côté, une déviation de la vérité, pour ne pas reconnaître les faits. Et quand un homme a donné 40 ans, ce que c'est ce qu'a donné mon frère depuis qu'il était étudiant de médecine, 40 ans de sa vie à cet hôpital public, et qu'il en avait fait, justement, dans le domaine de la génétique, je dirais, un domaine d'excellence, je devais doublement, si vous voulez, essayer de rétablir la vérité et raconter ce qui s'était passé. Mais au-delà de ce cri de colère, en effet, j'ai voulu aussi montrer la personnalité extraordinaire qui était mon frère, cet aspect solaire, et rendre hommage à l'enfance que nous avons tous et tous. Parfois, des écrivains écrivent sur une enfance malheureuse. Moi, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse grâce à des parents qui nous ont donné ce goût du voyage. Nous avons en effet, comme vous le rappeliez, vécu aux Antilles et il m'était important de montrer cet aspect solaire qui était aussi la personnalité de mon frère. C'est-à-dire que ce qui était marquant chez mon frère, c'était son esprit d'éternelle jeunesse, à la fois dans son métier, dans son audace d'aventurier, de pionnier de la génétique, mais c'était un homme qui était tout sauf un mandarin. C'est-à-dire qu'il restait, il gardait cet esprit d'enfance que nous avions développé aux Antilles, avec notamment un goût des voyages très prononcé. Et je voulais que la part d'ombre de ce livre, cette traversée des ténèbres, cette nuit dans laquelle nous avons été plongés, eh bien, soit aussi compensée par l'aspect solaire d'une enfance voyageuse et d'une enfance insulaire, et d'une famille où l'amour a été, en fin de compte, pour nous, la plus belle des constructions et la plus belle des vocations.
Et on sent très bien dans le personnage de votre filleule, Coralie, qui est très présente au moment du décès de son père, et qui est très présente auprès de son parrain, c'est-à-dire de vous. Et elle, on sent qu'elle prend les choses en main avec, avec courage. C'est un personnage formidable de votre livre.
Oui, oui. Ma filleule, mon neveu, ça a été en quelque sorte, je dirais, une relève qui nous a permis d'essayer de tenir dans cet effondrement et dans ce fracas. Et en effet, je veux dire que quand un drame nous frappe, eh bien, on revient à l'essentiel. On revient au texte sacré, on revient à la beauté, et on revient à l'amour familial qui nous permet d'endurer et de traverser ces épreuves.
Alors, je reviens juste sur les Antilles. Vous dites entre 1969 et 1972, c'était un bonheur absolu. Peut-être parce que l'actualité ne nous avait pas encore envahis.
Oui, alors c'est vrai que bon, quand on est enfant, on est beaucoup moins sensible à cette actualité. Et puis parce que, si vous voulez, c'était évidemment quand vous êtes enfant, vous vivez dans une savane au soleil, que vous voyagez, que vous allez à travers les îles, que vous êtes bercé par les arrivées et les départs des paquebots, des bananiers. Eh bien, vous vivez dans une sorte d'aventure permanente. Et donc, en même temps, c'est un miracle, et ce miracle de l'enfance, j'ai voulu le restituer. Mais en effet, nous étions un peu en dehors du monde, en dehors de la vie de la métropole. Et j'en ai eu un choc quand je suis revenu en métropole, oui, parce que j'ai découvert ce que c'était l'Hexagone, la France, l'automne, les saisons, et je dirais aussi la mélancolie.
Et qui est très importante dans votre ouvrage. Et Victor Hugo disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et Victor Hugo est très important. Il y a deux auteurs sur lesquels vous vous appuyez, c'est Dante et Victor Hugo. Et Victor Hugo, je vous cite, je m'appuyais sur l'épaule de Victor Hugo pour ne pas pleurer sur le ciment ou le marbre froid. Il était l'ami, le prêtre, le père qui consolait l'enfant que nous restions. Il avait tous ses visages au bord de la tombe, mais il avait eu le souffle de ranimer ses défunts, lui qui contemplait l'allégorie de la mort sur les vitraux de la cathédrale d'Auch au moment où sa fille faisait naufrage. Il s'enferma dans ses reliques, nous dit Jean-Marc Ovas. Nous trouvons avec nos morts le culte que nous pouvons. J'ai longtemps gardé les fleurs séchées de la tombe de mon frère. Le cimetière est une grande ville du 19e siècle. Tous les monuments, stèles, caveaux nous rappellent l'ordre bourgeois urbain. Se résigner, se consoler, mot de sens. J'aime mieux souffrir et ne pas oublier. La vie est pour nous muette et déserte désormais, écrivait-il à l'un de ses correspondants. Et dans Les Travailleurs de la mer, il tonne. Le désespoir, c'est presque la destitution de l'âme. Les très grands esprits seuls résistent. Mais là, devant la tombe de Thierry, je m'inclinais, il parlait. J'aurais tant voulu le réchauffer. L'injustice qu'il avait subie grandissait comme une ombre. Il n'avait jamais commis aucune faute, succombé à quelque hubris. Il n'avait jamais voulu défier les dieux, car chaque jour confronté à la mort, à l'injustice ontologique de la nature. Pouvais-je décemment vivre sans réparer cette mort qui avait crevé les yeux de sa femme, de ses enfants, de mes parents qui avaient tout donné pour nous? J'allais à Rouen désormais pour me rendre au cimetière, empruntais cette interminable côte de monumentale que mon père avait montée à pied d'enfant, accompagnant le corbillard de son arrière-grand-père, tracté par un cheval.
Oui, Hugo, c'est formidable parce que Hugo, c'est justement un homme qui a connu tant de drames, tant de morts terribles et qui jamais n'a mis, même s'il a eu la tentation de mettre le genou à terre, il s'est toujours relevé, justement, faire front, le front. Et donc, si vous voulez, ça a été en effet pour moi un compagnon absolument salvateur. Et on s'accroche. Voilà, à des grandes statues comme ça, elles ne règlent pas votre chagrin, mais le fait que d'autres personnes aient transfiguré ce chagrin vous permet au moins, je dirais, de l'apprivoiser ou de le nommer parfaitement. Souvent, je pense que l'art, la littérature, ne vous aide pas à surmonter les catastrophes. Mais, en tout cas, elle ne vous laisse pas sans mots. Elle vous permet de vous accrocher à un langage comme à une ligne de vie. Et ça me semble absolument indispensable.
Ah, un sens qui croit que tu n'es pas moi, écrit Victor Hugo dans sa préface des Contemplations, parce que son deuil, c'est notre deuil, et que sa condition, c'est notre condition.
Oui, et ça, c'est une chose aussi que nos sociétés contemporaines évacuent énormément, à savoir la mort, et qu'à l'époque de Victor Hugo, eh bien, elle était beaucoup plus évidente, elle était beaucoup plus présente dans la littérature, elle était beaucoup plus présente...
Mais dans le quotidien.
Dans le quotidien des êtres.
Aujourd'hui, on ne voit plus de corbillard.
Voilà, et donc aujourd'hui, on a évacué la mort jusqu'au moment où on est confronté à elle, et là, on est absolument défait. Et c'est ce qui est formidable dans la leçon de Hugo, c'est que la vie, la joie, la création, la transformation des choses fait que il nous apprend que nous pouvons vivre avec nos morts de façon extrêmement proche et que parfois nos morts sont plus vivants que beaucoup de nos contemporains.
Et ils nous apaisent.
Ils nous apaisent dans la douleur.
Absolument. Vous nous emmenez ensuite à Varengeville avec ce fameux cimetière marin où vous nous parlez de Georges Porterich. J'adore cette tombe, c'est marqué Georges Porterich, auteur de Amoureuse. Mais il a écrit une trentaine de pièces.
L'auteur bien oublié aujourd'hui.
Oui. Mais c'est Amoureuse qui retient, il est enterré avec son fils Michel.
Absolument. Et son épouse aussi. Alors, le cimetière marin, c'est un lieu d'abord pour nous, dans notre famille, extrêmement important. Je trouve que c'est l'une des plus belles choses qui soient, les cimetières marins. Et c'était un lieu qui, pour mon frère et moi, était un lieu où nous allions beaucoup, lorsque nous faisions des jogging, lorsque nous étions ensemble le dimanche, où nous parlions beaucoup.
Il faut monter la côte, hein.
Alors, il faut monter la côte, mais quand on parle, c'est parfois plus facile quand on pense à autre chose. Et puis, il y a ce magnifique panorama qui nous attendait. Et puis aussi, ce qui est très beau, c'est le sacré, l'église et la mer, qui est une autre forme aussi de sacré, qui se regardent. Et ça, c'était la plus belle des récompenses. Et en effet, ce type de lieux sont des lieux qui vous permettent d'être un peu plus proche des morts, mais aussi du grandiose.
Et les vitraux de Braque.
Et les vitraux de Braque.
Et alors, il y a une tombe que vous ne décrivez pas, que moi j'adore.
Celle de Roussel.
Non, c'est celle de Jacques-Antoine Danois.
Ah oui, le hussard de grognard de Napoléon.
Extraordinaire.
Absolument.
Je vais vous lire la plaque. Jacques-Antoine Danois fut 14 ans sous les drapeaux. Il gagna le grade de sous-lieutenant et le titre de chevalier de la Légion d'honneur dans le 50e bâtiment de régiment de ligne. Retraité, il fut agent percepteur de contributions directes résidant à Varengeville.
C'est ça qui est formidable.
Il combattit, attention, il combattit vaillamment en Autriche, en Prusse, en Russie. Il était à Ulm, Austerlitz, Iéna, Elo, Friedland, Ramul, Essling, Wagram, Smolensk, la Moscova, Lützen, Bautzen, Dresde. Soldat, il fut brave sous son toit dans les fonctions publiques. Il fut bon et probe, voilà.
Et probe.
Et probe.
Alors oui, j'ai beaucoup.
Je me suis beaucoup arrêté, absolument.
Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est quasiment un personnage là pour le Balzacien qui aurait été dans le colonel Chabert. C'est-à-dire ce type qui a été un héros sans doute de toutes les guerres. On dit héros quand on a fait beaucoup de guerres. Bon, en tout cas, qui a été un compagnon de route de Napoléon absolument formidable de tous les champs de bataille. Et il finit receveur des postes.
Oui, c'est facteur.
Voilà. Et donc, si vous voulez, je trouvais que le contraste était une leçon de vie et d'humanité absolument saisissante.
Et quand je pense à lui, je l'imagine en uniforme de grognard sur les falaises de Varengeville pour aller distribuer le courrier aux fermiers.
Absolument. c'est à la fois c'est balzacien, c'est maupassantien, et en même temps, il y a le rire flaubertien de la dérision de nos propres existences.
Oui, c'est absolument grandiose. Alors, on a quelques minutes encore, oui, bien sûr. Vous nous emmenez aussi à Douarnenez. Et alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Douarnenez ?
Alors, Douarnenez, c'était le berceau
de
mes grands-parents maternels.
Oui.
Et donc, si nous sommes attachés, mon frère et moi, à la Normandie, qui est aussi notre terre, comme les Antilles, la Bretagne a joué aussi un rôle absolument essentiel, et à la fois par ses racines dues à un grand-père qui était patron de pêche, et en effet, les sardineries de Douarnenez, et puis mon frère était aussi très breton dans l'âme, et il s'est ensuite choisi un lieu de villégiature à Quiberon, là cette fois-ci c'est la Bretagne Sud, mais la Bretagne était pour nous absolument essentielle, consubstantielle. C'est la Bretagne aussi de Perros, hein, que moi j'aime énormément, de Georges Perros, des papiers collés. Et donc cette Bretagne, elle fait partie aussi de notre mythologie familiale. C'est la mer, c'est la nudité, c'est le sacré. Et pour moi, il était important de convoquer justement toute cette géographie sensible qui est aussi notre géographie familiale et qui, par définition, bah, voilà, touche tous ceux qui ont à un moment connu les larmes et les tempêtes du désespoir.
Et au centre, il y a Rouen, où tout se passe, où il vit, où il travaille, où il meurt, et c'est un peu votre capitale, enfin le...
Oui, alors Rouen, c'est une ville évidemment pour moi extrêmement douloureuse, c'est à la fois la ville où j'ai commencé moi comme étudiant à découvrir, à aimer, à arpenter la littérature, et en même temps c'était la ville où il avait décidé de se consacrer, parce que quand mon frère a été étudiant, il a fait des études à Paris, il a fait des études à Rouen, il avait fait des études à Boston, et il a choisi justement de revenir à Rouen, parce que c'était la ville qui lui avait donné le goût et la vocation de la médecine, et qu'il voulait rendre à ses maîtres, à son hôpital, justement, ce que on lui avait donné. Mais en même temps, en revanche, l'hôpital ne lui a pas rendu ce qu'il avait lui donné en don.
Rouen n'est pas Rome, écrivez-vous, et pourtant c'est une cité antique de la médecine, la ville d'Achille Cléophas et d'Achille Flaubert, père et frère de Gustave, des chirurgiens qui eux aussi ont fait avancer la science de leur temps. C'est une ville où le fleuve de la médecine est enlacé à celui de la littérature. C'est une ville bien en place, au sens de bien assise, au bord de la Seine, qui engendre des fusées comme Corneille, Fontenelle, Flaubert, Duchamp, qui font déborder le lit du fleuve. Seule l'harpe transfigurée portait au ciel les morts, il ne faut surtout pas les enterrer, mais les encieler, les porter au nu.
Oui, je crois beaucoup à ça, et je crois qu'en effet, il serait bon qu'une ville comme Rouen, je ne dis pas rendre hommage, mais en effet, en ciel, mon frère, un peu plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant.
Merci Olivier Frébourg pour votre visite et votre livre
Merci
Frère
vous,
unique, publié au Mercure de France, une belle maison décidément. Merci à toute l'équipe technique, Dimitri Loué, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer. Permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre pour vous et vos proches. Au vu de l'actualité, on ne sait plus trop que souhaiter, la paix, la santé, la joie. Alors ici, nous gardons l'enthousiasme pour le transmettre, vous le transmettre. Et je vous souhaite une très bonne année à vous tous et je vous embrasse.